à mon sens, mais le bon maçon, c'était le maçon qui faisait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait sous la main.
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique.
Salut. Pour ce sixième épisode des Mains Libres, on t'emmène à la rencontre de Maxime, qui est tailleur de pierre dans l'Allier. Promis, c'est le dernier, dans deux semaines, on change de département. Maxime va nous raconter son parcours et sa formation, mais aussi tous les détails de la construction du four à pain d'Estelle, qui était la paysanne boulangère de l'épisode précédent. Bref, on te souhaite une très bonne écoute. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots,
quelques
voilà,
phrases,
qu'est-ce que
ouais.
tu fais?
Alors, ben, Maxime, j'ai 31 ans, je suis artisan, tailleur de pierre et maçon bâti ancien. Depuis, on va dire, ça fera bientôt une dizaine d'années que je suis dans le métier. Et en 2019, j'ai créé mon entreprise artisanale, tout seul. D'abord en taille de pierre et puis après en petite maçonnerie, avec... on va dire une orientation aussi très bâti ancien sur le petit patrimoine, travail de la chaux, voilà, la pierre, mais pas forcément dans sa plus simple expression, on peut dire, ouais.
Parce qu'au début, ouais, au début, t'as fait quoi comme études?
J'ai fait des études d'histoire,
ouais.
Prépa lettres, enfin baccalauréat, prépa lettres, et puis donc un master, je suis allé jusqu'au master 1 en histoire. Études rurales. Et là, j'avais le choix entre faire une professionnalisation dans le domaine de l'encadrement des métiers de la restauration du patrimoine, on va dire, ou totalement autre chose. Donc, j'ai voulu être sur le terrain. Ça lui fait une formation, tailleur de pierre.
Okay.
Et après, ça m'a amené aussi à faire la maçonnerie. Voilà.
Mais du coup, tu as eu accès à ce métier. Enfin, si tu avais continué dans ce domaine de l'encadrement, tu aurais eu affaire à des tailleurs de pierre, des maçons.
Oui, mais dans une autre, on va dire, partie du métier, qui serait l'encadrement soit de politique de restauration, comme la DRAC, peut le faire parfois, voilà. S'occupe des monuments historiques, il y a des gens qui interviennent sur les chantiers, ou qui mettent en relation des porteurs. Enfin, d'un projet de restauration d'un bien et des artisans. Mais en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas être dans ce côté-là, mais de l'autre côté, on va dire.
Ok.
Voilà.
Très bien.
L'outil.
Moi, je voulais savoir, parce que j'avoue que moi, quand on parle de tailleur de pierre, je vois un peu ça à l'époque, à l'ancienne, vraiment, c'est voilà, celui qui taille, etc. Et je me dis, où est-ce qu'on peut trouver une formation comme ça de tailleur de pierre?
Eh ben, il y a 2012-2013, du moins, 5 ou 6 gros centres de formation en France. Bretagne, Sud-Ouest, en Isère. J'en oublie, mais bon, il y a, voilà, pas mal de centres. Et puis après, il y a des écoles où on prépare des CAP plus modestes, on va dire, qui sont pas forcément des CFA. Pas spécialisé forcément là-dedans. Et ça, il y en a un peu partout en France. Donc, moi, c'était dans le centre de la France, Berry, dans une petite ville, au sein d'une association qui existe bien sûr toujours, qui forme toujours chaque année pas mal de gens, en sculpture aussi. Forépab, formation, restauration pour le patrimoine du Berry. Ouais.
D'accord.
Ah oui, du coup, c'est aussi tu peux t'orienter aussi dans le côté plus artistique.
Alors,
enfin, c'est
oui, bah, c'est une bonne question parce que du coup, je vais expliquer après la différence un peu entre les deux, c'est intéressant. Il y a le CAP tailleur de pierre marbrier que j'ai passé et décoration du bâtiment. Et dans cette école, la Forêt Pave, il y a aussi une formation de sculpteur ornementaliste, unique en France, où là, c'est plus apprendre la sculpture traditionnelle, statuaire, on part du modelage et des frises, des choses qu'on peut retrouver sur des églises, des monuments en général, qui sortent un peu du côté juste architectural, on va dire, classique, et qui tendent donc vers la sculpture.
Voilà. Ok.
Voilà.
D'accord.
Et c'est bien la différence entre les deux métiers. Le sculpteur n'est pas forcément dans un trait géométrique, alors que la taille de pierre, c'est vraiment... Souvent, on nous dit, vous êtes un artiste, là, là. C'est comme un menuisier, en fait.
Il y a la géométrie, c'est de la construction, de la structure.
Voilà, la planéité, des repères géométriques permanents. Voilà.
D'accord.
Un trait, c'est pas... on confond souvent avec le métier sculpteur.
Oui, c'est ça. Puis tu as quand même des notions de structure qui sont importantes quand tu construis. Puis là, je pense que c'est complémentaire avec le métier de maçon, du coup.
Tout à fait.
Mais du coup, ça m'amène à ma question que j'avais. Après, tu t'es formé en maçonnerie. C'était pour être complémentaire, parce que les deux sont complémentaires et que tu pouvais faire les deux, du coup.
Ouais, et puis par rapport au marché du travail. Et aussi parce que moi, je suis plus, pierreux de chantier que d'atelier. Je suis plus. Je préfère être sur le terrain que fermé dans un atelier. Bon. Où finalement, il y a parfois aussi une routine qui peut s'installer. Et on ne voit pas forcément. Ceux qui font que de l'atelier ne voient pas forcément les pierres en place.
Ouais.
Ça arrive. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant, même sur des choses beaucoup plus modestes, mais d'être sur les chantiers.
De pouvoir construire
directement. Poseur.
Pourquoi cette décision par rapport au marché du travail
Il y a beaucoup de monuments en France, mais il n'y a pas forcément toujours des offres d'emploi dans toutes les régions, à la hauteur de ce qu'on voudrait faire parfois, ou simplement en termes de choix personnel. Et donc, j'ai un peu tourné dans différentes régions, Touraine, Poitou, et puis l'Auvergne, par hasard, finalement. Bourbonnais, et du coup, suite à ça, je suis resté dans une entreprise dans le secteur pendant plusieurs années, 3 ans environ, et après m'être implanté ici. Et en fin de compte, après, j'étais face à un choix, soit partir peut-être de la région, c'était pas toujours simple de trouver du boulot, soit essayer de me mettre à mon compte, sachant que j'avais des demandes.
Ok. Oui, parce que du coup, en fait, vu que tu fais les deux, si tu as que des demandes en maçonnerie, tu peux faire que ça.
Oui.
Je sais pas, je me rends pas trop compte ce que ça représente par rapport à tes chantiers.
En termes de ratio.
Ouais, à peu près, ouais. Je sais pas,
mais j'essaye de toujours garder un lien avec la pierre. Je fais que de la maçonnerie de bâti ancien.
Ouais.
Donc pas de construction neuve, pas de.
Oui, quand même. Oui, c'est ça qui est important.
Ça m'intéresse moins, même si c'est technique, attention, c'est pas forcément inintéressant. Toujours garder ce lien, ce fil avec la pierre. Donc je peux être amené à parier un sol en dallage pelliculaire, 2 cm, hein, pierre de Bourgogne ou autre. Tailler des éviers, une corniche sur un bâtiment, des baies, fenêtres, portes, etc. Okay. Des bancs.
Voilà. Mais du coup, tu travailles que sur des bâtiments déjà construits?
Oui, principalement. Ou bon, pour une extension de terrasse.
Oui, de temps
des aménagements extérieurs, des choses comme ça, mais principalement.
Moi, j'avais une question, je ne sais pas pourquoi, mais tu as une belle pièce ou quelque chose dont tu es fier? C'est quoi pour toi le plus gros projet que tu as pu faire?
Un chantier.
Ouais, un chantier.
J'ai fait beaucoup d'interventions sur des petits chantiers, de petits patrimoines. Ouais. Ce n'est pas toujours des choses... c'est des choses qui sont souvent très bien... à l'origine, étaient très bien bâties. Mais c'est de l'architecture, on va dire, vernaculaire, quoi, pas forcément spectaculaire en termes de prouesse au niveau du tracé. Mais donc, oui, il y a un ensemble de réalisations qu'on a pu faire. Après, non, là, j'ai pas forcément d'exemple. J'aime beaucoup tout ce qui est mobilier à l'intérieur, vivier, tout ça. Je pense que c'est quelque chose dont on peut être un peu fier, parce que ça reste un objet à la fois design.
C'est
dégage quelque chose.
Je sais pas, moi, j'aurais trop peur de. Enfin, je sais pas comment dire, tu mets un pet de travers et ça casse toute la pièce.
C'est relativement incassable. Quoi.
Oui.
Ah ouais. À moins de lâcher une cocotte minute de 2 mètres de haut.
Non, mais je veux dire au moment de la fabrication, quoi.
Ah oui, oui, ça arrive, oui.
Ouais,
ou alors on appelle parfois une géode, enfin un des cristaux dans la pierre, un défaut.
Mm-hmm.
Voilà, un poil, on appelle ça aussi quand c'est fissuré dans le métier.
D'accord.
Là, ça peut être problématique, ouais.
Après, de toute façon, tu as eu quand même de beaux projets, là. T'as eu le projet du four?
Ah oui, localement, je vous dis, ouais.
Bah ouais.
Ouais, ouais, bah oui, gros projet. On est passé. C'est pas tout à fait fini.
Mais ça, je voulais t'en parler un peu parce que du coup, on rappelle rapidement le contexte, c'est la construction d'un four à pain.
Oui.
Mais du coup, c'est construit avec des matériaux de récup.
Voilà.
Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, enfin, je sais pas pour toi comment tu travailles d'habitude, etc. Si tu choisis les matériaux avec lesquels tu travailles ou si ça t'est imposé sur les chantiers et tout. Mais par rapport à ça, enfin, je sais pas comment ça se passe. Comment ça se passe de travailler avec ce genre de matériaux?
Alors, ça se passe bien, généralement, parce que ça s'intègre bien dans le paysage et dans l'existant, on va dire. Moi, par rapport à la question de quelle œuvre te satisfait le plus, et finalement, je pourrais dire en général, c'est l'œuvre qui, quand elle sera reçue par un client ou vue par une personne, ferait déjà partie du décor, en quelque sorte. On m'a dit, pour le four à pain, vous l'avez bien rénové.
Ouais.
Alors qu'il n'y avait rien.
Ouais.
On est parti.
Ouais, il a été construit de rien. Et...
Donc, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on n'a pas loupé quelque chose, ou du moins réussi.
Oui, ah oui, parce que quand tu travailles sur du bâti ancien, tu as envie que ça reste.
Qu'il y ait cette patte ancienne.
Voilà. Il y a des choses qui peuvent être faciles à reproduire, on va dire, mais ça demande quand même facile parce qu'en termes de moyens, c'est tout là, en fait. Autrefois, c'est. Enfin, à mon sens, mais le bon maçon, c'était le maçon qui faisait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait sous la main. Donc de la terre, de la pierre. Voilà, ici on est sur le caillou, clairement, donc c'est à portée de main. Mais on aurait pu très bien, pour des raisons facilitées, importer de la pierre d'ailleurs par des camions. Peut-être on l'aurait trouvé plus rapidement d'ailleurs, mais on aurait loupé quelque chose certainement parce que ce ne serait pas la pierre du village, par exemple.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, mais du coup, par rapport à ça, quand tu commences un chantier, tu as des gens qui te demandent... Ils ont de la pierre sous la main, comment
alors,
ça se passe?
Quand on fait de la bâtisse de pierre, quand je dis bâtisse de pierre, c'est des murets ou des murs ou comme le four à pain, qu'on a, donc toute la stature de four à pain en pierre du pays, appareillée avec du sable et de la chaux, ourdée au sable et chaud. Là, les gens généralement l'ont sous la main, sinon on peut fournir, mais ça prend vite des proportions. Pour avoir un projet en pierre, il faut déjà avoir de la pierre à bâtir sous la main, ce qui n'est pas trop compliqué ici.
Oui, ça dépend des régions en fait.
Voilà, il y a des régions où. Bon, si on change complètement de région, on peut en citer quelques-unes, mais là, vers Bourg-en-Bresse, la Dombe, ils n'ont que du galet. Ils montent un petit soubassement galet, après ils partent soit en terre crue, en pisé, ou alors en brique. Voilà, c'est plus compliqué.
Ouais, mais du coup, le savoir-faire, il est adapté suivant la région, en fait.
Voilà,
parce que c'est pas les mêmes pierres.
Qui pouvaient être travailler la terre, le torchis, etc.
Ok.
Qui s'adaptent finalement.
Pour revenir aux matériaux de récupération, c'est pas compliqué de réutiliser, parce que moi je m'y connais pas du tout, mais réutiliser de la pierre qui a déjà travaillé, je dirais, ou oui, par exemple qui a déjà été dans un four, et au bout d'un moment il y a quand même une usure, non, de cette pierre.
Alors le four, enfin dans un four, le four lui, la chambre du four est conçue en brique, donc il y a feu, parce que ça résiste à la chaleur.
Ouais.
Donc ça, on a fait tout un, pour donner cet exemple, on a fait tout un travail de sélection sur 1000 briques, on en a gardé peut-être 600, 60%.
Ouais.
C'est pas forcément compliqué, ça prend du temps. Tout ça, c'est de la manutention manuelle. Hein. Donc aujourd'hui, les gens qui détruisent des fours à pain, généralement, ils mettent un coup de pelleteuse dedans et ça passe tout au remblai.
Ouais.
Bon,
ouais.
C'est dommage. Après, c'est du gravat inerte. C'est pas si dommageable par rapport au bâti actuel. Parce qu'aujourd'hui, dans le bâtiment actuel, vous avez toute une phase quand on demande quelque chose, déchetterie interminable. Quoi.
Ouais.
Trier les matériaux, non recyclés. Bon, voilà. On intervient souvent, nous, sur des bâtiments. Où finalement tout peut être valorisé en gravat pour remblayer un chemin, rencaisser un terrain ou même réutiliser dans ce cadre comme on a fait pour le four.
D'accord.
Donc on avait plusieurs fours qu'on a démontés successivement et on a collecté plein de briques pour les réutiliser après un travail de tri. Alors ça c'est possible. Maintenant dans l'artisanat c'est un petit peu compliqué, surtout on pourrait penser au niveau des toitures. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de récupération de tuiles? Finalement ça allégerait le coût aussi. Bon, il y a une part de manutention qui est phénoménale, ça, c'est une chose. Il y a aussi des histoires d'assurance qui ne couvrent pas forcément les artisans si le produit n'est pas neuf ou alors fourni par le client. Voilà, donc nous, la seule chose finalement sur ce bâtiment qu'on a apporté, c'est... on n'a pas fait tout à fait non plus comme les anciens parce qu'on a été se fournir en sable lavé pour des raisons de commodité, on va dire, parce qu'aujourd'hui, on ne va plus dans l'île de la rivière directement ou creuser dans le jardin pour prendre du sable. On a les marchands de matériaux. Après, c'est ourdé à la chaux, donc ça reste sur un mode constructif comme il y a 100, on va dire 130 ans. Le four, il aurait à peu près 130 ans, 1890. Et voilà, on a tout ce qui est visible, du moins, sur un mode constructif de ces années-là.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
J'aime bien de tout ce qui est visible, comme s'il y avait des choses secrètes qui étaient cachées à l'intérieur.
Alors, on
Ouais.
a un peu triché, on n'a pas été puriste jusqu'au bout, mais on a, pour des raisons de poids, parce que ça fait quand même 60 tonnes à peu près, ce petit bâtiment de 4 mètres par, de 3 mètres 50 de haut, on va dire, par 4 mètres de côté, à peu près carré, avec tout le remblai qu'on a ajouté. On a fait des fondations béton à des endroits cachés, pour tenir aussi ce qu'on appelle la sole, donc pardon, les carreaux de terre cuite qui composent la chambre de cuisson du four, là où vont cuire
Ouais.
les pains. Voilà. C'était un peu plus
Oui.
commode.
Oui, parce que c'est quand même
Ouais,
un sacré morceau.
on peut comprendre.
Ouais.
Mais du coup, tu vas avoir encore plus un nouveau chantier maintenant avec ta maison, je suppose.
Oui.
Là, ça va aussi, ça va être un
Côté
bonheur de
perso,
faire ça, peut-être.
ouais, bonheur, ouais,
Beaucoup de
la
travail
passion.
en
Beaucoup de travail.
perspective. La passion du
Ouais.
matériau, quoi. Enfin,
Ouais,
ouais,
bah.
c'est une logique.
Mais en fait, ouais, je me rends compte, c'est que ça se marie totalement avec tes idées de reprendre un bâtiment qui était
Oui, tout à fait,
ancien
on a
et qui
cherché
était,
longtemps.
comme tu nous as dit, c'est t'es rentré dans la pièce et il y avait encore le journal
Voilà, une
de la personne.
maison typique, on va dire, de notre région, la Combrailles, qui n'a pas bougé. Donc, les proportions sont identiques à la construction, les outils aussi. Enfin, voilà, c'est comme un musée.
Ouais, c'est génial.
J'allais dire à ciel ouvert parce qu'il
Il
manque quelques portes et fenêtres. Mais
y
voilà, le projet, c'est
a encore un toit quand même.
de la restaurer, on va dire, de manière cohérente. Avec de la modernité, mais.
Et moi j'avais une question par rapport au chantier participatif, parce que du coup, enfin le four a été construit en partie en chantier participatif, si
Oui,
je ne me trompe pas.
principalement. Ouais.
Et du coup, ça veut dire que bon, il y a ton savoir-faire, mais pendant la construction, en fait, tu étais chef de chantier, il y avait des gens qui
Voilà, ouais.
n'y connaissaient pas grand-chose, qui venaient travailler.
Oui.
Comment ça se passe d'encadrer des gens qui savent pas faire
Eh ben, ça se
quand
passe
toi, tu as
bien.
un savoir-faire?
C'est pas toujours simple. Moi, c'est pas mon fort forcément à l'origine, d'encadrer du monde. Ça s'apprend. Faut se former, ça s'apprend. Ça se fait
Ouais.
pas comme ça du jour au lendemain. Dès qu'on a plus de deux personnes à gérer, ça peut être facile comme plus délicat, selon aussi les étapes, parce qu'en fait, tout ce qu'on ne voit pas toujours dans la construction, c'est qu'il y a une série d'étapes plus ou moins modulables, mais par lesquelles, comme un chemin par lequel on doit passer pour enchaîner, passer d'une phase à l'autre.
Ouais.
Ça arrive très fréquemment qu'on soit un petit peu bloqué, et il faut souvent se remettre en question, rajuster, sachant que là, bon, c'est aussi une première, hein,
Un four et un
en
chantier
termes de chantier
participatif.
participatif plus un four à pain. Donc on a dû ajuster pas mal de fois, se creuser un peu le ciboulot, mais ça s'est bien passé, et sur, on va dire, presque période de 9 mois, on va dire 10 mois, voilà, on arrive à bientôt au terme. Souvent, l'écueil qu'on peut avoir, c'est sur ces chantiers de construction de murs, notamment en pierre, c'est que chacun fasse un petit peu son petit bout de mur, on va dire, dans son coin. En fait, c'est plus comme une petite fourmilière où il y a des rôles qui s'échangent, hein. Bon, quand j'étais en équipe, dans des entreprises, on changeait de rôle, mais il y avait quelqu'un qui s'occupait des cordeaux, l'autre du ravitaillement, ce qui fait qu'on avait développé des techniques pour aller, pas très vite, mais vite, à
Ouais.
construire de la pierre. Alors ça paraît phénoménal le temps à y passer. Et en fait, et je pense que c'est le mode constructif de la pierre au 19e siècle, avec cette cadence. Il y avait beaucoup de monde aussi sur les chantiers, mais on peut reproduire ça, et il y a des gens quand même qui ont été un petit peu agréablement surpris, on va dire, de l'avancement. Pour des gens qui n'avaient jamais bâti de pierre, il faut le rappeler, peu travaillé en maçonnerie, pas trop de connaissances des outils, voilà, c'est pas anodin.
Mais par rapport à ce que tu disais, quand tu parlais de cadence et de rapidité dans la construction, c'est vrai, ça, on imagine que ça prend vraiment super longtemps de construire certains trucs. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi une limite par rapport aux outils. Enfin, c'est vraiment tes mains qui travaillent, il n'y a pas beaucoup d'outils en plus. Je sais pas, l'autre jour, tu nous as montré ton camion avec les outils que tu avais avec toi, c'est pas non plus énorme, c'est pas des machines,
Non.
des trucs dont tu as besoin
Non,
d'outils pour porter la
non. Oui.
pierre, etc. Mais le reste, il y a quand même beaucoup de savoir-faire manuel.
Oui, le maçon part avec une caisse on va dire, 70 kg de matériel, souvent, et dans lesquelles il y a quasiment tout ce qu'il faut pour construire, entre guillemets, une maison.
Ouais.
Massette, un cordeau,
Oui, c'est ça, c'est quand même
une
des
broche,
outils
une
manuels,
châsse, c'est
c'est
parti,
pas
quoi.
forcément
Ouais.
d'énormes outils électriques ou voire
Oui,
consommant d'autres
on
énergies.
peut. Voilà, on peut se. Dans le bâti ancien, du moins, voilà.
Mais du coup, ça reste quand même un métier très manuel.
Oui.
Et
ouais, totalement, oui.
Et voilà, je pense que ça nous mène à la fin.
Vers la fin.
Et on va te poser notre dernière question qui clôt le podcast. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes mains?
Mes mains.
Tes mains. Ouais. Celles-ci, là.
Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de tes mains?
Eh ben, je pourrais leur dire merci, je pense, dans quelques temps, déjà. Parce que finalement, j'ai un ami terrassier justement qui dit ça souvent. C'est... Il dit qu'il ne faut pas oublier que c'est ça qui nous sert à bouffer.
Ouais.
Et que et lui, il m'a dit même que ça peut être une machine à gagner de l'argent. Il m'a dit ça un jour. Bon,
ouais.
Pas une machine, mais c'est un outil. C'est notre premier. Voilà, il faut en prendre soin.
Ouais.
Essayer. Et voilà, parce que c'est à peu près tout.
Ouais.
Mais c'est une bonne réponse.
Bah, c'est une très bonne réponse même. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup d'avoir écouté Les Mains Libres en compagnie de Maxime. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours. Cet épisode a été financé par Anne, qu'on remercie pour sa main toujours tendue et ses doux messages qui rajoutent plein de soleil du sud à nos journées. Dans le prochain épisode, on t'emmènera dans la Drôme chez Hervé, qu'on appelle aussi le papé et qui cultive des plantes aromatiques. Allez, à bientôt.